Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 juin, jour de l'été, jour de la fête de la musique aussi. Salut Andy.
Salut Marie, comment ça va?
Ça va et toi? J'ai l'impression que ma voix est beaucoup trop enjouée pour... et que je te réveille. J'espère que je te réveille pas
c'est
à
juste
midi.
J'étais pas prêt à répondre pile à ce moment-là.
Ah bah forcément, ça c'est toujours, je pose toujours le sens du timing en radio. Effectivement, je ne l'ai pas. Eh bah ça arrive, c'est comme ça. Bon, ça va pas nous empêcher en tout cas de dérouler le programme de cette émission. On va parler justement d'un reportage que tu as fait, Andy, d'un partenariat entre l'hôpital de Laval et le comité départemental olympique et sportif. Tu vas nous expliquer donc en quoi ça consiste, quel est le principal projet entre les deux parties.
C'est de renforcer leurs liens et de permettre à la population mayennaise d'être mieux soignée grâce au sport.
D'accord, très bien, c'est rapide, c'est concis, c'est très bien, et on en saura un petit peu plus avec donc le médecin dédié au sport au centre hospitalier Lavallois. On va également parler d'une initiative proposée par le pays de Mélégré et impulsée par le pays de Mélégré. La communauté de communes a installé un automate pour inciter les habitants à encore plus trier leurs bouteilles en plastique. On va voir comment ça fonctionne et comment a été reçu par la population cet automate. Et vous verrez, les débuts fonctionnent bien en tout cas. On va également rester dans ce thème du développement durable avec Vincent Grison qui va nous partager son expérience assez incroyable puisqu'il s'est rendu en Arctique dans l'est du Groenland à rame, oui exact, j'allais dire en canoë, pas tout à fait puisque tout le trajet ne s'est pas fait en canoë mais en tout cas en ramant. Et puis donc l'idée c'était bien sûr de montrer qu'on peut faire des trajets aussi décarbonés, donc sans utiliser forcément la voiture, encore moins l'avion, etc., etc. Et puis sur place, il s'est aussi rendu compte des conséquences très directes du réchauffement climatique. Il nous en parlera donc lors de l'interview. Et puis vous le savez, comme chaque mardi, on fait un petit tour du côté de la librairie Emmirenjou, où là pour le coup, on va voir les différents coup de cœur, et en l'occurrence un coup de cœur BD aujourd'hui de François. Mais d'abord, on va faire un point sur l'actualité avec toi, Andy. Après les états généraux de la santé, le département a adopté 30 nouvelles actions.
Pour lutter contre les déserts médicaux, le conseil départemental de la Mayenne a validé en public 30 propositions avec comme objectif principal d'attirer de nouveaux professionnels et les soutenir. Parmi elles, aider les assistants médicaux ou encore des soins dentaires à l'hôpital. La gauche est en accord avec le fond, mais regrette la forme.
Une campagne de deuxième rappel contre la Covid pour toutes les personnes âgées de plus de 60 ans.
Les chiffres épidémiologiques montrent une nette augmentation de la circulation du virus dans tous les départements de la région, passant de 220 cas pour 100 000 habitants fin mai à 343 le 12 juin dernier. La protection du vaccin diminuant avec le temps, il peut être important pour les personnes âgées de faire un rappel vaccinal qui permet de diminuer fortement le risque d'apparition de formes graves.
Le syndicat SNUDI FO53 dénonce les non-remplacements des absences de professeurs et d'AESH.
D'après la projection du syndicat avec les chiffres officiels du DASEN, ce serait 5668 jours non remplacés dans les écoles mayennaises du 3 janvier au 10 juin. Pour lutter contre cela, les syndicats mayennais de l'éducation exigent le remplacement immédiat du personnel absent, la création de postes de remplaçants nécessaires et l'organisation d'un recrutement exceptionnel à Bac plus 3, mais aussi le recrutement d'AESH à hauteur des besoins.
Un hangar à foin a pris feu ce matin à Saint-Hélier-du-Maine.
Au lieu dit le Riotet, le hangar qui abrite 70 tonnes de foin a pris feu vers 7h30. Cet sapeur-pompier était toujours sur place à 10h30.
Et une fuite de gaz à Évron.
Sur la RD20 qui a été coupée le temps de l'intervention de GRDF, trois logements ont été évacués rue Pierre et Marie Curie.
Michel Lecompion est décédé jeudi dernier à l'âge de 87 ans.
Il était le président de l'association départementale des anciens combattants et prisonniers de guerre en Algérie, Tunisie et Maroc depuis 2006. Il avait prévu de passer le flambeau le 5 juillet prochain. Michel Lecompion avait été décoré par la croix du chevalier de la Légion d'honneur le 11 novembre 2011. Ses obsèques seront célébrées aujourd'hui à 14h à l'église Saint-Rémy de Château-Gontier.
Et puis en sport, les arrivées continuent chez les Tangos.
La troisième recrue du Stade Lavallois a été présentée ce matin. Il s'agit d'un ancien du club qui joue au Stade Lavallois jusqu'à ses 14 ans, Kevin Tapoko, un très grand milieu de terrain défensif de 1m96, aujourd'hui âgé de 28 ans, revient pour un an de contrat plus une option en cas de maintien. Et autre nouvelle, Julien Maggiotti jouera toujours sous les couleurs lavalloises la saison prochaine, mais sous la forme d'un prêt. Le joueur a été transféré au club belge du Royal Charleroi Sporting Club pour 2 saisons plus une en option.
Et puis on en parlait en tout début de cette émission, Andy. Le centre hospitalier de Laval et le comité olympique de la Mayenne renforcent leur partenariat.
L'inactivité physique est le quatrième facteur de risque de décès en France. C'est pourquoi le GDOS de la Mayenne et l'hôpital de Laval, à travers une convention signée jeudi dernier, s'engagent à renforcer et à développer de nouvelles actions sportives pour améliorer la santé de la population mayonnaise. Raphaël Godet, chef de service du sport au centre hospitalier de Laval, nous explique ce que va permettre cette nouvelle convention.
En fait, c'est déjà un partenariat qui existe depuis de nombreuses années, même avant que j'arrive. Mais ça permet en fait de solidifier les actions en commune qu'on a déjà. Donc, comme le parcours d'activité physique santé, comme le suivi des jeunes en section sportive de l'agglomération lavalloise. Et puis, ça permet aussi de faciliter la coordination pour mettre en place d'autres projets après. Alors, à ce jour, il y a plusieurs projets qui sont en cours. Comme on le disait, il y a le projet qui s'appelle le PAPS, le parcours. Enfin, c'est pas un projet d'ailleurs, c'est une action qui est en cours, qui est de l'activité physique adaptée pour justement remettre de l'activité physique pour des gens qui n'en ont pas, qu'ils aient des pathologies ou pas d'ailleurs. Mais ça va être plutôt des gens qui sont touchés par des pathologies chroniques comme la lombalgie, comme le diabète, ou tout simplement des gens qui sont sédentaires. Ensuite, va y avoir plutôt le volet suivi des jeunes en section sportive. Donc là, c'est pas des patients dans le sens pathologique du terme, mais c'est des jeunes qui sont en section sportive et avec le financement du comité olympique et de l'agglomération lavalloise, on leur permet un meilleur suivi médical, donc avec une consultation médicale, avec un électrocardiogramme pour justement limiter les risques cardiovasculaires et puis aussi pour essayer de prévenir toutes les blessures de l'appareil locomoteur chez ces jeunes qui font beaucoup de sport. Et puis on a un projet par contre qui devrait se mettre en place à partir de septembre pour les gens qui ont eu un traitement de cancer, de justement leur proposer un suivi psychologique, diététique et un entretien avec une éducatrice en activité physique pour leur proposer un panel d'activités physiques adaptées. En fait, c'est prouvé peu importe la pathologie, l'activité physique a toujours des bénéfices. On le sait tous, on se dit ah, le sport c'est bon pour la santé, mais en fait c'est plus que juste un adage, ça doit vraiment être un des piliers de la santé. Et autant on sait, il y a des preuves claires sur la prévention, mais il y a également des preuves très claires quand il y a aussi une pathologie. Et effectivement pour le cancer, les gens qui sont atteints d'un cancer, alors que effectivement pendant le traitement, à cause des douleurs, à cause de la fatigue, à cause bien évidemment de la pathologie, des traitements, ben, ils ont tendance à réduire leur activité physique. On sait que si on arrive à leur reproposer qu'ils fassent de l'activité physique, il y a clairement un gain sur le risque de rechute, sur l'espérance de vie et sur la qualité de vie. Et ben le but justement de cette convention, c'est qu'il y ait une vraie coordination entre l'hôpital et le comité olympique. Donc essayer finalement de sortir le plus rapidement possible les gens de l'hôpital et que derrière ils aillent vers des clubs qui sont adaptés à leur pathologie ou à leur situation. On essaie de s'adapter pour qu'un maximum de Mayennais puissent en bénéficier. Donc après, si jamais on a cette problématique, ce sera une bonne problématique et on essaiera de pouvoir augmenter l'offre. Mais là, pour le moment, au contraire, on cherche à faire connaître cette solution pour que les Mayennais puissent en bénéficier.
Et depuis octobre 2021, grâce à ce partenariat, le surpoids et l'obésité chez les jeunes sont aussi accompagnés à travers plusieurs séances autour de l'activité physique, mais aussi sur l'accompagnement psychologique et diététique. Le comité olympique se charge de mettre en relation les jeunes avec les clubs sportifs adaptés afin qu'ils continuent une pratique physique régulière.
Merci Andy, on va passer à notre deuxième reportage, et oui, deux reportages pour le prix d'un aujourd'hui, avec un autre objectif bien différent celui-ci, 100% de bouteilles en plastique recyclées sur le pays de Mélégri. Et pour y arriver, la communauté de communes a installé il y a 15 jours un automate à l'entrée du Super U de Mélé-du-Maine. C'est une première dans le département pour inciter les habitants, en échange d'une petite contrepartie financière, à recycler les bouteilles transparentes, colorées et les canettes en aluminium. Et les débuts sont très prometteurs, assure Jérôme Landel, c'est le vice-président du pays de Mélégri, chargé de l'écologie et du développement durable.
Un automate qui ressemble un peu à, ça a la forme d'un frigo, on va dire, qui est à l'entrée du Super U de mêlée. Cet automate, il est là pour permettre de récupérer un nombre de bouteilles plastiques, qu'elles soient colorées, blanches ou même les canettes alu, et permettre ainsi à les sortir de nos ordures ménagères et ainsi pouvoir avoir un recyclage mieux géré, quoi. Cet automate, il a été mis en lien, en collaboration avec le Super U de mêlée, qui pour le coup, à chaque dépôt de bouteille, reverse une participation d'un centime, donc à valoir en bon d'achat dans le Super U de mêlée. Parce que chaque bouteille qui est récupérée est du coup recyclée pour repartir en bouteille, et ça apparemment jusqu'à l'infini. Ça permet de recycler tous nos déchets, nos plastiques, et les remettre dans le circuit pour qu'ils soient revalorisés. Sur le pays de Mélégré, ouais, on doit être à 75%. Donc on a 25% de nos plastiques qui vont toujours dans nos poubelles marron. L'idée, c'est d'arriver au plus près des 100%. 100%, on aura du mal, mais déjà arriver à 90%, ce serait même très bien. Donc les gens viennent avec leur sac, déposent leur bouteille et canette, et repartent avec leur bon d'achat, donc à 1 centime par bouteille. Et puis après, peuvent aller faire leurs courses, tout simplement. Alors, on est en moyenne à plus de 100 bouteilles par jour. Là, hier soir, on était à 1150 bouteilles en 10 jours. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il y avait même une jeune fille qui était là et qui était super contente de mettre ses bouteilles dans cet automate et récupérer un petit bon d'achat pour aller faire les courses avec son grand-père ou son père. Et elle était assez contente, ouais. C'est assez ludique, en plus. Donc, à chaque bouteille qu'on met, on voit les centimes qui montent. C'est assez intéressant pour les enfants, tout particulièrement, qui viennent avec leurs parents, et même pour les parents, de voir gratifier leurs gestes, c'est assez intéressant.
Cet automate a été financé par Acteco en lien avec la déchetterie de Séchet Environnement. À terme, les bouteilles opaques pourraient elles aussi être recyclées.
Et on revient juste après avec Vincent Grison qui nous parlera de son aventure à la rame, juste après Slow de Cassia.
Just a little bit low. I always try to lose my mind in a conversation with you. I don't know what my future will hold. Pulling threads from the back of my mind is the only thing I can do.
But I don't wanna listen no more. Gotta let go and move on, 'cause I'm pushed to the limit.
Better times, this ain't easy.
Nowhere to go.
Nowhere. wanna go back to when things were slow. When things were slow.
Slow de Cassia dans l'agité du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio. Et on va parler de cette aventure assez incroyable, il faut bien le dire, celle qu'a vécue Vincent Grison entre mai et juillet 2021, 13 000 km en ramant jusqu'en Arctique, après un trajet en voilier jusqu'à l'Islande, direction l'est du Groenland sur la banquise, pour voir de ses propres yeux les conséquences du réchauffement climatique et sensibiliser ensuite des élèves. Interview de Vincent Grison avant sa conférence organisée vendredi dernier au collège Jean Rostand à Château-Gontier, entrecoupé d'extraits du film qui raconte cette histoire, Vincent et les ours.
Donc moi je suis Vincent Grison et je réalise des expéditions éducatives et scientifiques à destination de l'Arctique.
Enfin, vous dites des expéditions, en tout cas moi je n'avais vu une de relier Rennes à justement l'Arctique. Comment vous est venue déjà cette idée folle ?
Alors l'idée elle est venue assez de manière pas si folle que ça. L'idée c'était de monter un programme éducatif à l'environnement et notamment sur la thématique du réchauffement climatique. Et l'Arctique est une zone qui est touchée 3 à 4 fois plus vite par le réchauffement climatique que le reste de la planète. Donc c'était un sujet évident à couvrir si on voulait en parler efficacement. Et comme les enfants, ils sont très sensibles aux ours blancs, à la beauté de la banquise, à tout cet univers, et bien leur montrer assez de manière assez pratique que cet endroit était menacé, et bien ça me semblait une bonne articulation de programme.
Peut-être aussi rappeler votre parcours. Qu'est-ce qui vous a incité justement à avoir ce projet-là et cette démarche-là ?
Eh bien, donc moi je viens du secteur associatif, je travaille pour Médecins Sans Frontières comme coordinateur de projet et j'ai aussi un passé comme architecte naval et navigateur et j'ai voulu voilà, lier cet engagement à la pratique maritime et notamment l'expédition maritime et c'est comme ça qu'est né le projet.
Donc vous vous êtes dit, l'idée c'était de relier au maximum en tout cas Rennes à l'Arctique en canoë, comment ça s'est passé très concrètement ?
Alors l'idée était d'utiliser des mobilités douces, puisque ayant le souhait d'aller faire des interventions dans les écoles, parler d'environnement, de limiter son empreinte carbone, l'idée était d'avoir une démarche pour atteindre cette zone avec un minimum d'impact sur l'environnement. Donc on a utilisé le vélo, le voilier, la rame pour atteindre l'est du Groenland. Donc ça a mis du temps, ça a mis 3 mois pour faire l'aller-retour, en comptant un mois sur place. Et donc voilà, c'était assez long, assez fatigant.
Qu'est-ce que vous en retenez ? Alors j'imagine plein de choses, c'est compliqué, mais si vous avez vraiment un ou deux moments qui vous ont marqué dans ce voyage ?
Alors il y a la première rencontre avec la glace de mer, c'est quelque chose d'assez magnifique, qui était vraiment inconnu pour moi jusqu'alors.
Bon allez, ça y est, première plaque. Eh bien, le brise-glace est bien installé sur sa plaque. Bon, pas évident hein, de descendre ou de monter sur une plaque pour la première fois. Mais on dirait que ça l'a fait, donc je suis plutôt content. Et il y a plein d'oiseaux qui sont en chasse autour de la plaque, il vient de voir un phoque aussi. Donc c'est marrant, mais on dirait que ça grouille de vie. Oh là là, regardez là-bas, il y a un iceberg qui est en train de tourner.
Et au fur et à mesure du périple, eh bien, il y avait de plus en plus de glace. Donc j'en apprenais de plus en plus. Et au fur et à mesure, ensuite, il y en avait de moins en moins. Donc là, j'apprenais un petit peu, je comprenais l'urgence climatique. Donc ça, c'était vraiment le premier grand souvenir. Et puis le deuxième, bien sûr, c'est les ours polaires. Toutes ces rencontres avec les ours polaires qui étaient parfois assez... conflictuel. J'étais vraiment sur leur territoire, donc voilà, encore beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là.
Est-ce que justement vous vous étiez préparé, parce que effectivement quand on arrive face à un ours polaire, de savoir comment il faut réagir, alors pour ça et pour d'autres choses aussi dans le voyage ?
Alors oui, bien sûr, hein, c'est 2 ans de préparation. Il y a déjà pas mal de gens qui sont allés dans ces endroits, qui ont écrit, qui ont documenté. Et notamment pour les ours polaires, il existe des protocoles, voilà, comment réagir face à des ours polaires. Donc voilà, je me suis documenté beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de nouveautés quand on arrive là-bas. Et donc c'était quand même une grande épreuve.
Bon bah j'ai été attaqué par un ours, là. Il a failli me choper la jambe.
Il a failli me choper la jambe, j'étais à l'intérieur là. Il est là, là.
Ah ! Ah !
J'ai eu la peur de ma vie là. J'ai quand même l'impression d'avoir été chassé en fait. J'ai vu la tête de l'ours là, à moins d'un mètre de moi là, du coup, qui dépassait ici et qui s'avançait vers moi pour essayer de me choper la jambe. Heureusement, putain, heureusement. Sinon, ça aurait été compliqué. Hein.
Vous étiez seul ? Comment ça s'est passé ?
Alors, sur place, oui, j'étais seul. Je suis monté avec un équipage de. On était 6 sur un voilier. Et une fois sur place, j'étais seul sur mon petit canoë.
J'imagine qu'on part pas avec un canoë comme là sur la Mayenne aujourd'hui lorsqu'on va en Arctique. Il y a un équipement spécifique ?
Alors si, c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est la même chose. Il faut juste apporter plus de vêtements, plus de nourriture et à des éléments de sécurité pour pouvoir survivre en cas de coup dur. Hein. Voilà, on n'a pas le médecin qui est juste à côté ou les pompiers qui sont juste là, quoi.
Faut absolument emporter quoi?
Alors voilà, un téléphone satellite par exemple, ça c'est très important, de la nourriture en quantité, une pharmacie abondante qu'on connaît, ce genre d'éléments techniques. Quoi.
Et vous disiez donc l'idée c'était aussi de voir les conséquences vraiment même visuelles du réchauffement climatique. À quoi est-ce que vous avez pu mesurer ça?
Alors moi je ne l'ai pas vu tout de suite, je l'ai surtout ressenti une fois que j'ai retouché un peu la civilisation et que j'ai lu les rapports et l'actualité. En fait, quand j'étais là-bas, il y avait une vague de chaleur assez incroyable sur le Groenland, inhabituelle et qui était liée directement au réchauffement climatique. Donc concrètement sur place on voit que ça fond. Après, est-ce que c'était dû à l'été ou est-ce que c'était dû au réchauffement climatique? Sur le moment, je ne le savais pas. Et c'est une fois en rentrant, en fait, en prenant un peu de recul et en lisant les spécialistes qu'on voit quel était l'effet du réchauffement climatique à ce moment-là.
Et donc ça veut dire que c'est forcément un voyage que vous avez documenté aussi, pris des photos, des films. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui?
Donc oui, il en reste un film, Vincent et les ours, là, qui vient d'être diffusé sur France 3 et que je diffuse dans les établissements scolaires. Et puis une exposition photo, des conférences. Voilà, c'est un projet qui vit. Hein, l'idée, c'est pas de faire juste une expédition. L'idée, c'est d'avoir un programme éducatif qui se nourrit de temps en temps d'une expédition en Arctique.
Salut les enfants! Est-ce que vous me voyez tous là? Je suis content de vous voir tous là. Alors je sais pas très bien. En fait, comme le soleil il est toujours en l'air, il fait jamais nuit. Et je sais pas dans quel fuseau horaire je me trouve. Alors j'ai décidé de garder l'heure française, comme ça c'est plus facile pour vous appeler. Pour moi là pour l'instant il y a deux dangers. Le premier c'est le froid. Parce qu'il fait quand même assez froid et notamment si je tombe dans l'eau là, l'eau elle est vraiment glacée. Hein. L'eau elle est à 0 degré. Et dehors il fait vraiment pas chaud non plus. Et le deuxième c'est les ours polaires. Donc je fais très très attention à ça. Déjà je vais essayer de survivre un peu parce que c'est quand même pas facile de vivre ici. Et puis après je vous appelle, je fais des vidéos, j'observe la nature, je fais un peu le journaliste.
Vous êtes déjà intervenu un peu plus tôt dans l'après-midi auprès de collégiens. Est-ce que le message passe bien? Comment se passe cette volonté de sensibilisation? En tout cas, justement, est-ce que le message il est très vite et très bien reçu?
Oui, ils comprennent vite. Ils comprennent très très vite. D'autant qu'on commence la séance par justement ce film documentaire. Et donc, ils ont tout de suite les images, ils ont tout de suite les émotions aussi. Et c'est vraiment la charnière qui leur permet ensuite de comprendre quel impact on peut avoir positif, quel impact positif on peut avoir sur ces zones qui sont touchées par le dérèglement climatique. Et donc, ils sont assez, assez conscients et aussi un peu impressionnés. C'est un mélange de beaucoup de choses, mais... beaucoup de questionnements, ouais. Je pense que c'est la première des choses et c'est l'objectif de ce programme, hein. C'est de questionner, de remettre en cause et de faire en sorte qu'eux trouvent des solutions avec leurs professeurs et qu'ils mettent en œuvre le reste de l'année, quoi.
En fait, pareil, comme je ne connaissais pas l'endroit ni la période dans laquelle j'allais, je m'étais fait une idée de la quantité de glace qu'il y aurait et en fait, il y en a beaucoup moins que ce que je pensais. Il y a deux semaines, quand je suis arrivé par ici, il y a des endroits où on ne pouvait pas passer avec le bateau. Et maintenant, il n'y a plus ces endroits comme ça. Il reste encore de la glace en mer, mais elle disparaît très très vite.
Vous disiez des questionnements. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les échanges que vous avez pu avoir jusqu'à présent?
Alors, des échanges, voilà, la cohérence énergétique, par exemple. Voilà, est-ce que c'était vraiment un voyage sans carbone, enfin décarboné? Il y a beaucoup de si. Et si tu avais fait comme ça, et si tu avais fait comme autrement, ça, c'est vraiment typique de leurs questions. Soit parce qu'ils sont inquiets, ou soit parce qu'ils ont envie d'améliorer le programme. Et puis, beaucoup de petites questions pratiques. Voilà. Et il fait chaud, il fait froid, c'est dur, c'est pas dur. Aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut s'attendre aussi à des questions très pratiques et ils vont aussi du côté plutôt émotionnel, psychologique aussi. C'est assez étonnant à quel point ils peuvent être sensibles à ça.
Donc se mettre à la place d'eux aussi. Est-ce que l'objectif, c'est aussi de, bah, après, que ça les fasse réfléchir, enfin que tout le monde, d'ailleurs, là, il y a aussi leurs parents, que ça les fasse réfléchir et qu'on se dise au quotidien, même si on ne va pas en Arctique, faire attention, c'est important.
Oui, c'est l'un des objectifs. Et ça fonctionne parce qu'en fait, par ricochet, on a des retours dans les familles, des parents qui prennent connaissance en fait, de ces urgences climatiques dans ces zones, qui s'intéressent, et s'intéresser, c'est s'approprier. Donc, s'approprier quelque chose, ensuite, c'est le protéger. Donc, ça fonctionne assez bien, ouais.
Donc c'est vrai que vous disiez, à l'œil nu, c'est pas toujours facile de voir ces effets du réchauffement climatique. Est-ce que vous avez pris des mesures potentiellement transmises à des scientifiques, par exemple ?
Donc là, oui, c'est un des programmes scientifiques et éducatifs. L'année dernière, on faisait de la photographie aérienne pour calibrer des images satellites pour cartographier la glace. Donc ça, on développe un outil avec l'Université Rennes 2 là-dessus. Et donc là, comme l'expédition repart là-bas cette année, on a d'autres programmes liés au climat qui s'y associent. Donc là, je laisserai plus les scientifiques parler sur ces sujets parce que c'est très technique. Et c'est, voilà, nous, on est vraiment pourvoyeurs de services pour eux, pour qu'ils puissent réaliser leurs recherches.
Donc vous disiez, ça repart cette année. C'est vous qui repartez là aussi sur le même mode ?
Alors je repars, mais là, sur un plus gros bateau, avec plus de personnel, notamment des spécialistes de l'image et de la recherche qui vont... Voilà, donner plus de volume et d'expertise à l'expédition. Oui, voilà, c'est ça grossit un petit peu. Ouais.
Et dernière question peut-être plus personnelle, qu'est-ce que ça vous a fait de faire cette expérience quand même assez incroyable ? Qu'est-ce que ça vous a procuré ? Qu'est-ce que vous en retenez ?
Moi, j'ai beaucoup de plaisir à découvrir des nouveaux endroits. Et puis, c'est toujours très satisfaisant, en fait, de réussir à avoir un impact positif sur l'environnement à travers sa démarche personnelle. Donc c'est vraiment ça que je retiens et qui me pousse toujours et encore.
J'ai besoin d'avoir encore un petit peu d'expérience, de connaissances aussi. Ça donne envie d'en savoir plus sur l'ours, sur d'autres choses d'ici pour mieux l'appréhender. Et bon, je crois que c'est une vie dure pour tout le monde ici. Que ce soit pour les hommes ou les animaux, hein. Je crois qu'il y a aussi... Alors c'est ça, c'est pas fait pour les petits citadins comme moi. Ça, c'est de l'apprentissage.
Extrait du documentaire Vincent et les ours, réalisé par Mathurin Péchet et diffusé sur France 3 il y a quelques jours. Vous pouvez d'ailleurs toujours le regarder en replay sur France.tv. Et Vincent Grison compte repartir donc pour une deuxième expédition en septembre avec deux de ses collègues pour mesurer certains scénarios climat du GIEC, mais aussi les microplastiques dans les océans.
Et tout de suite, la chronique Emily Ranjou, mais juste avant, on fait une pause musicale avec ALB, I Did You Did.
Around, see what's going on when we take that ride. Looking forward to turn around. I know I crossed the line, but it would be like say it's no one's fault but mine. Can't change the things I did. We were face to face when we should have been side by side. It hurts when they're creeping in, saying things like this will never work. What do people understand?
my broken Valentine. When I throw the dice, wait for them to learn.
Let's go straight to the end.
Things I did, we were face to face when we should have been side by side.
We play the same games every day. We started this anyway. I did, you did. It keeps coming back all the time. How are we gonna get inside? We're so close that we can't collide. We play the same games every day. We started this anyway. I did, you did. It keeps coming back all the time. How are we gonna get inside? We're gonna make it, we just have to try.
I did, you did de ALB dans la JT du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. Et on va passer à notre coup de cœur littérature, et en l'occurrence coup de cœur bande dessinée avec François, spécialiste de la BD chez M. Lirangeau.
M. Lirangeau à Château-Gontier vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle bande dessinée qui est assez récente aussi puisqu'elle est sortie vendredi dernier. Ah, vous savez pas quand c'est, moi je sais, tant pis pour vous. Vous allez rechercher. Donc c'est la BD qui s'appelle T'Z-E-E, une tragédie africaine, aux éditions d'Argo de Apollo et Bruno. Alors vous reconnaissez ces noms-là, ils ont fait Tyler Cross, ils ont travaillé sur La Désolation, sur Commando Colonial. Encore une fois, on retrouve ce duo sur une histoire africaine. Je dis bien africaine parce qu'on ne connaît pas le pays où ça se passe. On est dans une dictature, enfin les derniers soubresauts d'une dictature, puisque le Tsé, petit clin d'œil au Tché, Tsé est mort, il s'est fait tuer, il s'est fait assassiner. Et en fait, on va suivre tout l'autour qu'il y avait autour de lui, toute sa famille, le palais, le pays, les domestiques, comment eux vont vivre ça. C'est une histoire d'hommes, de femmes, de courage, de tragédie, de violence, c'est très violent aussi. Et c'est comment, en fait, cet entourage-là va vivre dans ce pays, en fait, qui s'émiette, qui tenait grâce à cette figure-là qui était terrible. Le Tsé était un dictateur qui était très terrible. Alors, c'est inspiré de plein de pays africains. Je ne dirai pas lesquels, je vous laisserai les découvrir. Mais on reconnaît certaines têtes de dictateurs, de personnages célèbres du régime. Et en fait, ce qui est impressionnant avec cette BD-là, c'est que Apollo et Tsé nous racontent la petite histoire derrière la grande histoire. C'est ça que j'aime bien en bande dessinée. C'est pas la grande histoire où on raconte les grandes batailles, les grands trucs, les grands événements. Non, c'est les humains qui est derrière. Et je trouve qu'il le fait très bien, justement. Enfin, Apollo et Bruno font un très bon duo pour ça. À chaque fois, ils nous mettent le portrait décalé. La femme, l'homme, qui est pas dans l'ombre, mais qui est un peu à côté. Donc le Tsé, c'est vraiment très chouette. Donc c'est Tsé, encore une fois, Tsé. Une tragédie africaine de Apollo et Bruno aux éditions d'Argo. Bonne lecture.
Retrouvez M. Lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, ou, et sur l'autre radio.
C'est mieux debout, hein. C'est côté théâtral.
Avec les petits bonus de Joël à chaque fois qu'on découvre, qu'on apprécie. Et donc les chroniques, elles, que vous pouvez retrouver sur l'autreradio.fr et puis de façon inédite chaque mardi à 7h30 du matin. Donc là, il faut se lever un petit peu plus tôt que pour écouter la JT du local, mais ça marche aussi. Et puis, je le disais en tout début de cette émission, nous sommes le mardi 21 juin, donc ça y est, c'est le début de l'été. Et aussi, vous le savez forcément, jour de la fête de la musique. Et il y aura ce qu'il faut hein, ce soir, une large programmation prévue à Laval dans le centre-ville, de part et d'autre de la Mayenne, notamment avec une scène spéciale 6x4 avec pas mal d'artistes accompagnés par la salle de concert, Daou, W2.0, Lilo, Ferdinand et Lazer Arafat. Et puis il y aura aussi des concerts prévus rue de la Paix, rue du Pont de Mayenne entre l'Oregans et la Fosse, des DJ devant le Castelneuf, et puis aussi les enfants des écoles d'Avenières devant l'esplanade, enfin sur l'esplanade du Châteauneuf, également aussi au collège Emmanuel de Martonne dès 17h30. Alors on va pas lister tout ce qu'il y a, mais en tout cas il y a vraiment beaucoup de choses dans le centre-ville de Laval ce soir. Attention, puisque beaucoup de rues sont aussi fermées à la circulation, au moins le temps de la soirée, voire certaines jusqu'à demain dans la matinée, demain midi. Donc attention, mais en tout cas beaucoup de choses pour cette fête de la musique. Fête de la musique aussi à Château-Gontier ce soir à partir de 19h là aussi, notamment avec une scène Place de la République. Des concerts prévus aussi dans les anciennes halles et dans plusieurs bars et restaurants du centre-ville. Et puis à Mayenne, même s'il y a eu une première fête de la musique samedi dernier, il y a eu la deuxième partie ce soir, notamment avec le Conservatoire de musique de Mayenne Communauté qui a prévu 4 scènes dans le parc du château. Là aussi, ce sera à partir de 19h30. Et puis on avance un petit peu, hein, tant qu'on parle des fêtes de la musique, il y en a aussi qui sont prévues vendredi soir. Ce sera le cas à Niafle, à Renazé et à Cossé-Luzin. Et puis samedi, entre autres, ce sera à Cran. Évidemment, cette liste est non exhaustive. En tout cas, c'est la fin de cette émission L'Agité du Local pour le mardi 21 juin. Salut Andy, est-ce que tu comptes profiter un peu des concerts ce soir ?
Ouais, je vais aller dans le centre-ville de Laval et je vais me promener un peu partout. Je pense que avec tous les concerts qu'il y a de prévus, je pense qu'on peut découvrir pas mal de choses.
Il y a moyen, ok. Donc tu comptes bien en profiter, très bien. Eh bien écoute, après justement avoir profité de la fête de la musique, ce sera le retour de l'émission demain, salut.
On se retrouve demain, salut Marie.
On se retrouve demain évidemment, mais à l'antenne d'ici là, il y a d'autres émissions à ne pas manquer évidemment. À 19h, il y aura Sorcière, une émission, ma spéciale musique justement, avec le collectif Total Chat, le portrait d'une femme méconnue qui refuse de jouer à la loterie du mariage, ou encore la PMA pour les femmes seules en question. L'émission sera suivie à 20h de The Voice of Cassandre et à 21h de Frères de Chaussures. Et nous, on se retrouve demain à 12h15. Très belle journée à tous en musique.